Chapitre 3. William Doe apparaît pour faire exécuter une horrible promenade au lecteur de ce récit. Quelques-uns de ces curieux étaient sortis de l'hôtel du Dauphin, domestiques et voyageurs. Et parmi ces derniers, on remarquait un homme d'une trentaine d'années, à la physionomie particulièrement intelligente et sérieuse, qui, sans questionner personne, écoutait et regardait. C'était un Américain, ou un Anglais. Sa nationalité se trahissait à la coupe de sa barbe, à la forme de ses vêtements, à sa démarche. Arrivé à Paris depuis un mois, il s'était fait inscrire à l'hôtel sous le nom de William Doe. Il y occupait au premier étage un appartement donnant sur la rue. Ce qu'il était venu faire en France, on l'ignorait. William Doe ne recevait ni lettres ni visites. Il restait parfois absent des journées et des nuits entières. Mais comme il ne rentrait jamais gris, payait sans en discuter le prix et sans en vérifier l'addition, la note qu'on lui remettait tous les 8 jours, son propriétaire, comprenant qu'il n'en pouvait demander davantage, avait fini par ne plus s'inquiéter de son mystérieux locataire. William Doe, qui n'était sorti de chez lui qu'après son déjeuner, quoiqu'il fût rentré de bonne heure la veille, se promenait donc à travers les groupes qui stationnaient devant le numéro 13. Il était là depuis quelques instants déjà, lorsqu'il entendit un des pérorreurs raconter, en prétendant tenir ses renseignements du secrétaire du commissaire de police, que la victime du drame de la nuit dernière était un inconnu d'une 60aine d'années, que le couteau avait été trouvé dans la blessure même dont il était mort et que le cadavre était exposé à la morgue. Ces détails parurent éveiller dans l'esprit de l'Américain une idée subtile, et il rentra à l'hôtel du Dauphin où, après avoir jeté un coup d'œil rapide dans la loge du concierge sur le casier où les voyageurs déposaient les clés de leur chambre, il remonta dans son appartement dont il ferma la porte derrière lui. Cet appartement se composait de 2 pièces. D'abord un salon, ensuite une chambre à coucher qui n'était séparée du logement voisin que par une cloison légère dans laquelle il existait une porte, mais condamnée ou plutôt fermée de chaque côté par des verrous. Afin d'isoler plus complètement encore ces 2 appartements, on avait recouvert de bandes de papier les joints de cette porte de communication. William Doe s'en approcha sans bruit et souleva une de ces bandes qui ne masquait qu'en apparence, du côté des gonds, une solution de continuité assez large pour qu'on pût voir la chambre tout entière. Il la parcourut du regard et prêta attentivement l'oreille. Ce qu'il découvrit coïncidait sans doute avec la pensée qui s'était emparée de lui quelques instants auparavant. Et, sans autrement prolonger son observation, il redescendit et sortit de l'hôtel en se dirigeant du côté de la place Royale. Là, il prit une voiture et donna au cocher une adresse qui fit faire à cet homme un mouvement de surprise. L'étranger avait dit à l'automédon de le conduire à la morgue. 10 minutes plus tard, William Doe franchissait le seuil du lugubre lieu et se mêlait à la foule qui examinait, à travers le large vitrage de la salle d'exposition, les corps étendus sur leur lit de pierre. Il y avait là, sur des plans inclinés et faisant face au public, des noyers boursouflés déjà verdâtres, une femme, jeune encore, trouvée la tête brisée dans les fossés des fortifications, un enfant qu'un chariot avait écrasé, des inconnus enfin, aussi nus que le permettait la décence, et arrosés par un filet d'eau. Leurs vêtements étaient suspendus au-dessus d'eux pour que parents ou amis puissent les reconnaître malgré les blessures et la décomposition des corps. Doe parcourut d'un regard rapide les tristes dépouilles. Mais sans doute, aucune d'elles n'était ce qu'il cherchait, car il se dirigea immédiatement vers une porte située au milieu de la muraille et sur un des panneaux de laquelle était écrit « Greffe ». Un gardien, assis contre cette porte pour en interdire l'entrée au public, la lui ouvrit, et l'Américain se trouva dans un bureau fort bien tenu, soigneusement clos, hygiéniquement chauffé, presque élégant, qui faisait un contraste saisissant et bizarre avec l'horrible promenoir qu'il venait de quitter. 3 employés, courbés sur leur pupitre, écrivaient dans de grands registres à couverture verte. « Monsieur le greffier ?» demanda William Doe à l'un des travailleurs. « C'est moi, monsieur, » répondit une voix partant d'un grand meuble d'acajou qui n'aurait pas déshonoré le cabinet d'un notaire. L'Américain s'approcha. Le greffier était un homme d'une cinquantaine d'années, à la physionomie douce et placide, portant un collier de barbe réglementaire, une cravate ornée d'un gros camée, un gilet et une redingote de teinte foncée. C'était un officier ministériel de la tête aux pieds. Il répondit gravement au salut de l'Américain en soulevant la calotte grecque ornée d'un gland d'or dont il était coiffé. Puis il l'interrogea du regard. « Monsieur, dit l'étranger, n'avez-vous pas reçu ce matin du quartier de l'Arsenal le corps d'un homme assassiné ?»«
Je ne sais, monsieur, si... »
« Oh, ma question ne saurait être bien indiscrète, » interrompit le voyageur, en souriant au ton administratif qu'avait pris le fonctionnaire. « Car l'identité de ce malheureux n'ayant pas été constatée, vous allez très probablement exposer son cadavre. Or, je crois pouvoir vous donner un renseignement utile. Il se peut que je le connaisse. Du reste, voici ma carte, et de plus, une autorisation de visiter la morgue. Je ne pensais pas m'en servir si promptement. » Après avoir lu le nom gravé sur le petit carton qui lui était présenté et s'être assuré que l'autorisation de pénétrer dans les salles réservées de son triste domaine était bien en règle, le greffier fixa William Doe avec curiosité pendant quelques instants. Et, se levant, il lui dit « C'est fort bien, monsieur. Veuillez me suivre. Je vais vous faire voir l'inconnu de ce matin. » Il avait en même temps sonné un gardien qui s'était aussitôt présenté à la porte par laquelle on communiquait du bureau dans l'intérieur de la morgue. Cet employé était un homme de 25 ans à peine, carré, trapu, avec une physionomie à la fois craintive et bestiale. Nu-tête, ses épais cheveux tombaient incultes sur ses sourcils. Il était vêtu d'un costume gris, espèce d'uniforme découpé peut-être dans la capote d'hôpital de quelque cadavre. C'était un des deux surveillants de la morgue. 24 heures sur 48, il y passait la journée et la nuit, seul, avec ses hôtes muets et défigurés. Son tour de veille achevé, il était libre d'aller embrasser sa femme et ses enfants, pourvu que le jour suivant, il revînt ponctuellement auprès de ses morts. Il y avait en lui du geôlier et du fossoyeur, moins la brutalité du premier et la sinistre gaieté du second, car à la morgue, on n'y pourrait rudoyer aucun être vivant, et le greffier n'y supporterait certes pas les murmures d'un refrain, en admettant le cas improbable qu'il n'en montât jamais un aux lèvres de ses subalternes. Une fois en dehors de son bureau, le greffier fit un signe, et après avoir ouvert une porte située à l'extrémité d'un petit couloir, le gardien s'effaça pour laisser passer son chef et l'étranger. William Doe comprit qu'il se trouvait dans la salle d'autopsie. C'était une pièce dallée et voûtée. Elle était éclairée par deux larges demi-fenêtres à 6 pieds du sol. On eût dit une grande cellule de quelque prison, sans les deux étranges tables qui en occupaient les côtés. L'une, en zinc, ressemblait à un grand comptoir de marchand de vin, sauf qu'il existait à chacune de ses extrémités un trou communiquant par un tuyau à un seau de fer blanc. L'autre avait tout l'aspect d'un gigantesque grill. À un homme moins expert que paraissait l'être William Doe, en semblable matière, le greffier se fut empressé d'expliquer que c'était sur ces lits de métal que se pratiquaient les autopsies. Mais il jugea sans doute que tout détail était inutile, car il se contenta de dire que la seconde de ces installations ne servait plus. Elle était cependant l'invention d'un médecin célèbre, qui avait pensé qu'en établissant un courant d'air chaud sous le cadavre à examiner, les émanations seraient moins dangereuses pour l'opérateur. Mais un confrère l'avait remplacé et, à tort ou à raison, le grill était abandonné à la rouille et à ses horribles souvenirs. L'autre table était luisante mais inoccupée. Le médecin légiste chargé de l'autopsie d'un individu qu'on suppose victime d'un assassinat, demanda tout à coup l'Américain, profite certainement de cette occasion pour amener quelques-uns de ses élèves afin de leur donner une leçon d'anatomie.
Jamais, monsieur, jamais! Répondit avec dignité le greffier. Les autopsies, surtout celles ordonnées par la justice, sont des opérations rigoureusement secrètes. Le docteur ou les docteurs désignés, car parfois ils sont deux, ne peuvent même pas se faire accompagner d'un confrère. Ces choses exceptionnelles, assez rares heureusement, je fais prévenir mon second gardien, et ce sont mes deux hommes seuls qui servent d'aide aux opérateurs. Vous pensez combien il est important que le résultat de l'autopsie ne soit pas divulgué. Les coupables pourraient s'en faire un moyen de défense.
C'est vrai, je ne réfléchissais pas à ce danger.
Est-ce que ces messieurs sont là ? Demanda l'administrateur de la morgue en s'adressant au gardien.
Celui-ci répondit oui de la tête plutôt que de la voix.
Poursuivons alors, ajouta le greffier en se tournant vers l'étranger.
Me voilà forcé de vous faire assister à un spectacle probablement nouveau pour vous. Seulement, il nous faut traverser d'abord plusieurs salles dont la visite est peu agréable. Si cela vous contrarie, nous pouvons passer par un autre chemin.
Du tout, monsieur, du tout, répondit l'Américain avec son flegme ordinaire.
Seulement, je m'accuse de prendre ainsi votre temps.
Le greffier souleva sa calotte de velours pour remercier son visiteur de sa politesse. Et il le précéda dans une salle voisine dont le gardien venait d'ouvrir la porte. C'était une pièce en tout semblable à la précédente par sa construction. Mais elle était plus longue, et il y régnait à droite et à gauche, au ras de la terre et la tête à la muraille, comme des lits dans un dortoir, sept grands coffres de zinc un peu inclinés, fermés par des couvercles bombés et s'ouvrant sur le côté.
« C'est ici la salle des couvre-corps, » dit le cicerone.
Et soulevant le couvercle de l'un des coffres, il fit voir à William Doe un corps étendu dans cette caisse de métal, corps en état parfait de conservation, bien qu'il fût là depuis déjà plusieurs jours, grâce au filet d'eau désinfectante qui, venant d'un réservoir destiné à alimenter tout l'établissement, l'arrosait de la tête aux pieds. Jadis, poursuivit le greffier avec complaisance et un certain orgueil, tous les cadavres étaient exposés découverts, mais c'était là un spectacle pénible pour ceux qui venaient reconnaître un parent ou un ami. J'en fis l'observation au savant docteur de Vergy, et la morgue lui doit cette importante amélioration. Les corps ayant ici chacun leur numéro, nous n'avons à ouvrir, grâce à cette installation, que le coffre où est renfermé celui qu'on nous demande. Il reste ici, après avoir été reconnu, jusqu'au moment de l'inhumation. Mais vous devez vous apercevoir qu'il ne répand aucune mauvaise odeur.
C'était exact. Dans cette pièce, il ne faisait que froid et humide. Ces caisses de zinc fermées, on aurait pu se croire dans tout autre lieu, pourvu toutefois qu'on n'y aperçût pas, comme le fit William Doe, un enfant d'un jour ou deux qui, placé tout simplement sur le contrefort du mur, attendait poings fermés et membres repliés, que la science dise s'il avait été mis au monde vivant ou mort. En quittant cette horrible exhibition, le greffier et le visiteur traversèrent le lavoir, puis le séchoir, endroit où les vêtements des cadavres sont soigneusement nettoyés et suspendus jusqu'à ce qu'ils prennent place au vestiaire. Et ils atteignirent enfin le but de leur course, la salle d'arrivée et de départ. La porte à deux battants de cette pièce était grande ouverte, et il pénétrait un joyeux rayon de soleil qui se jouait sur une bière sans couvercle où reposait de son dernier sommeil un mort enfoui sous une couche de sciure de bois. Sur le seuil de cette porte, faisant face au dehors et à un appareil photographique, un individu était couché sur une civière dont la tête avait été élevée à l'aide de deux larges briques.
C'est encore là une innovation, dit le greffier à l'étranger. Maintenant, lorsqu'un mort n'est pas reconnu après un certain laps de temps, on fait son portrait, afin de pouvoir l'inhumer sans trop attendre. Quand il s'agit de la victime d'un crime et que l'autopsie est ordonnée, on photographie le malheureux sur l'ordre du parquet, avant de le livrer au chirurgien.
« Cela est fort ingénieux, » répondit William Doe, malgré le ton quelque peu ironique avec lequel son interlocuteur lui avait donné ses intéressantes explications.
Pouf, fit celui-ci, ça servira peut-être une fois sur mille.
Mais l'Américain, pressentant qu'il allait trouver ce qu'il cherchait, s'approcha de la civière pour examiner celui qui était étendu. C'était le vieillard du numéro 13. Son pantalon déchiré laissait apercevoir en partie l'horrible blessure qu'il avait reçue au bas-ventre. Ce que remarqua surtout William Doe, c'est que les traits de cet infortuné avaient conservé l'expression d'une indicible épouvante. Pendant ce temps-là, les photographes poursuivaient leur travail, plaçant et déplaçant le cadavre, le mettant dans le meilleur jour, afin d'obtenir des épreuves aussi parfaites que possible.
« Eh bien ?» demanda le greffier à son visiteur.
« C'est bien l'homme que je supposais. À qui dois-je faire ma déclaration ?»«
À moi d'abord, monsieur. Ensuite au commissaire de police qui a relevé le corps. »
C'est que je ne connais pas le nom de ce mort. Je sais seulement où il demeurait, mais il est probable qu'on trouvera dans la chambre qu'il occupait quelques papiers de nature à mettre sur les traces de son identité.
Vous n'avez alors qu'à donner l'adresse de cette chambre au commissaire de police du quartier de l'Arsenal.
Je vais me rendre chez lui. Il ne me reste, monsieur, qu'à vous remercier de votre obligeance.
Et soulevant son chapeau, William Doe salua le greffier.
« Ah, pardon, monsieur, » fit son guide en l'arrêtant du geste. « Il n'y a que les morts qui entrent et sortent par là. Il nous faut passer par le greffe. »
L'Américain s'inclina en souriant comme pour exprimer que cela lui était absolument égal. Il semblait d'ailleurs poursuivre une idée nouvelle. Le greffier l'introduisit dans la salle qu'il fallait traverser pour gagner son bureau. C'était une pièce carrée, dont les murailles disparaissaient derrière d'innombrables casiers remplis de vêtements roulés, noués, étiquetés. On eût dit un dépôt du Mont-de-Piété.
« C'est ici le vestiaire, » dit l'administrateur.
En remarquant la grimace significative de l'étranger, il ajouta
« Oh, il n'y a pas de quoi s'endimancher à la morgue. Ces effets restent à la disposition des parents ou des héritiers pendant 6 mois. Ce laps de temps écoulé, la vente de ce qui n'est pas réclamé est faite au profit du domaine. »
Sans s'inquiéter autrement du bénéfice que de faire là le domaine 2 fois par an, William Doe hâta le pas. Il lui tardait d'être dehors. Cependant, au moment de rentrer dans le bureau, il s'arrêta brusquement en disant au greffier et en lui désignant le gardien.
« Puis-je donner un louis à ce pauvre diable ?»«
Certainement, monsieur. Il n'a jamais eu pareil aubaine. Pourvu qu'il le remporte tout entier chez lui ce soir, car il n'est pas de service cette nuit. Le malheureux a 4 ou 5 enfants. »
Il demeure probablement dans le voisinage.
Du tout, fort loin au contraire. Par ici, les loyers sont trop chers. Il gîte au-delà de la barrière d'Italie.
Vous permettez alors?
Le greffier, pour que sa présence ne gênât pas son employé, avait déjà ouvert la porte de son cabinet. William Doe s'approcha rapidement du gardien et, lui mettant 20 francs dans la main, il lui dit à demi-voix mais de façon à en être bien compris.
Il y aura 4 fois autant pour vous si vous êtes ce soir à 9 heures chez le marchand de vin qui est au coin de la rue Vendrezanne et de la route d'Italie. Surtout, pas un mot. »
Stupéfait, l'homme ne répondit que du regard. On lui promettait là ce qu'il gagnait en 2 mois de sa misérable existence. Il n'était pas encore revenu de sa surprise que l'étranger avait disparu dans le greffe.